Depuis la nuit des temps, les hommes s'interrogent sur l'au-delà. Ils se demandent « Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté ?» Entre les mythologies et les religions, les réponses sont des plus farfelues et bien entendu contradictoires. Ici et là, les textes sacrés nous donnent des éléments de réponse, mais c'est souvent dans un langage poétique parce que rien n'existe sur terre qui puisse vraiment être comparé avec le royaume de Dieu ou le séjour des morts. Dans le chapitre 14 de son livre, le prophète Ésaïe soulève une petite partie du voile sur le Séol, c'est-à-dire les enfers du séjour des morts où nous décrivons le sort final du roi assyrien et babylonien Sennachérib. Mais derrière lui, on distingue assez nettement le jugement final de Lucifer. Soit dit en passant, que derrière toutes les puissances politiques et militaires de la planète, on trouve le sourire grimaçant de Satan. En effet, lors de la tentation de Jésus, dans le désert, le diable lui dit que tous les royaumes de ce monde lui appartiennent et donc qu'il peut les lui donner. Et il a dit la vérité. Ésaïe a commencé à parler du jugement du roi de Babylone, puis la prophétie glisse pour se fixer sur Lucifer. Et maintenant le prophète revient au roi terrestre. Je continue de lire dans le chapitre 14. « Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. » Ils se demandent, « Est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers ?» Ésaïe 14, les versets 15 à 17. À partir d'ici, la laideur ainsi que la brièveté de la fausse gloire sont puissamment décrites par Ésaïe. L'expression « les profondeurs de l'abîme » donne un aperçu des divers degrés à l'intérieur du Séol, ce qui apparaît également dans l'Évangile selon Luc, dans la parabole de l'homme riche et Lazare. Les Babyloniens, comme les Assyriens, ont pour habitude de déporter une grande partie des populations conquises afin de prévenir toute future rébellion. Les habitants du séjour des morts se moquent de ce despote et derrière lui, de Lucifer. C'est avec une ironie mordante et caustique qu'ils ont d'abord décrit son orgueil démesuré, ses prétentions arrogantes et maintenant sa chute vertigineuse, soudaine et complète. Il faut dire qu'il est tombé de très haut, du sommet des nues de la montagne de Dieu, où il avait accès, jusqu'au fond de l'abîme, une sorte de prison souterraine qui se trouve au tréfonds du Séol. On ne peut pas descendre plus bas. Mais sa dernière demeure sera bien pire. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit. Alors, le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, et il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Apocalypse 20, verset 10. Ces événements encore futurs peuvent susciter bien des questions, mais le rôle de l'homme n'est pas de discuter le plan ou les objectifs que l'Éternel, dans sa sagesse infinie, a fixés, et qu'en leur temps, il accomplira. Nous devons plutôt lui faire entièrement confiance parce que c'est un Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Je continue le texte. Tous les rois des nations, oui, tous sans exception, ont cet honneur de reposer chacun dans son caveau. Mais toi, loin de la tombe, tu as été jeté comme un avorton qu'on méprise au milieu des victimes égorgées par l'épée, qu'on a précipité dans la fosse de pierre, qu'on a piétiné le cadavre. Tu ne seras jamais réuni avec elle dans le tombeau, car tu as ruiné ton pays et tu as fait périr ton peuple. La race criminelle sera oubliée à jamais. Préparez le massacre de ses fils pour tous les crimes de leur père, pour qu'ils ne puissent pas se relever un jour pour conquérir le monde et couvrir de leur ville la face de la terre. Ésaïe 14, les versets 18 à 21. L'humiliation du despote babylonien est complète. son âme est insultée par les ombres du séjour des morts, alors que son corps est foulé aux pieds. À cette époque, être privé de sépulture est le plus cruel des outrages. Le roi assyrien est tombé le plus bas possible de la position de pouvoir suprême à une mort infâme. Ce renversement de situation provoque la stupéfaction des ombres, les habitants du séjour des morts. Selon l'histoire, Sennachérib est assassiné en 681 par ses deux fils, Adramelec et Sératser, qui doivent alors s'enfuir en Arménie pour sauver leur vie. Ce despote cruel et ignoble avait ruiné son pays, ce qui fait que personne, ni sa postérité, ni aucun monument n'a perpétué sa mémoire. Sennachérib a de nombreux fils, mais toute sa race est condamnée à disparaître. C'est ce qui arrive quand Nabopolassar dirige avec succès une révolte des Chaldéens contre la Syrie et fonde, en 625 avant Jésus-Christ, le nouvel empire babylonien. Je continue le texte. « Je combattrai contre eux, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et je rayerai de la terre le nom de Babylone. Oui, je supprimerai ce qui restera d'elle, sa lignée et sa descendance. » L'Éternel le déclare. « Ses ruines deviendront un nid de hérissons, un vaste marécage. » Et je la balayerai comme avec un balai qui détruit tout. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Ésaïe 14, les versets 22 et 23. L'Éternel est souverain sur l'histoire humaine, et il mettra fin au règne et à l'existence de l'orgueilleuse Babylone. Une fois la ville vidée de ses habitants, il n'y aura plus personne pour entretenir les canaux et les digues de l'Euphrate qui assurent la fertilité du pays. Ces ouvrages étant détruits ou obstrués par la boue, le fleuve inondera la plaine et la transformera en un immense marécage. Ainsi se termine l'oraison funèbre et l'oracle contre le roi de Babylone. Je continue. Le Seigneur des armées célestes a juré par serment. « Ce que j'ai décidé s'accomplira. Ce que j'ai projeté se réalisera. Oui, je briserai la Syrie dans mon pays. Je la piétinerai sur mes montagnes. J'écarterai de vous le joug qu'elle imposait. J'ôterai son fardeau de dessus vos épaules. Telle est la décision que l'Éternel a prise contre la terre entière. Et telle est la menace qu'il adresse à toute nation. Le Seigneur des armées célestes a pris sa décision. » Qui pourrait l'abroger? Sa menace est lancée. Qui la détournerait? Ésaïe 14, les versets 24 à 27. Ésaïe fait allusion à la déroute de l'armée assyrienne de Sennachérib devant Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ, quand 185 000 hommes de guerre moururent en une seule nuit frappés par l'ange de l'Éternel. Que l'ennemi soit vaincu au moment même de son apparente victoire dans mon pays fait partie de la stratégie habituelle de Dieu. Je finis maintenant de lire le chapitre 14. Menace prononcée lors de l'année de la mort du roi Ahaz. Ne te réjouis pas tant, Philistie tout entière, de ce que le bâton qui te frappait le dos a été mis en pièces, car de la souche du serpent naîtra un basilic, dont la progéniture sera un serpent venimeux volant. Les plus pauvres du peuple trouveront de quoi se nourrir, et tous les miséreux reposeront en sécurité. Mais je ferai périr ton peuple par la faim, et ceux qui resteront de toi seront exterminés. Lamente-toi aux portes, pousse des cris aux villes. Toute la Philistie s'effondre, car du septentrion arrive une fumée et, dans leur bataillon, aucun ne se débande. Que répondrons-nous donc à ceux qu'envoie cette nation? Que c'est l'Éternel même qui a fondé Sion. Les humbles de son peuple y trouveront refuge. Ésaïe 14, les versets 28 à 32. Le message constant d'Ésaïe est que la véritable prospérité consiste à se confier en l'Éternel et non à magouiller. La Philistie est située entre Jaffa et Gaza, le long de la Méditerranée, et s'étend sur environ 80 km de long et 24 de large. Ce peuple, originaire de Crète, est déjà présent en Palestine au temps d'Abraham, mais en petit nombre. C'est au XIIe siècle avant Jésus-Christ qu'ils arrivent en masse et s'installent dans la région fertile de Gaza. La mort du roi de Juda Ahaz change la donne politique de la région. C'est un être ignoble et idolâtre, mais allié aux Assyriens. Suite à son décès, 715 avant Jésus-Christ, les Philistins qui ont déjà subi une invasion assyrienne se réjouissent. Mais Ésaïe les avertit que, même si la pression s'est relâchée, ce n'était que passager, car la puissance destructive assyrienne, qui décrit comme un serpent venimeux volant, reviendra avec une rage renouvelée. Le prophète est mécontent de ce que les Philistins ont envoyé une délégation à Ézéchias, le nouveau roi de Juda, pour essayer de l'enrôler dans leur lutte contre la Syrie. Ésaïe affirme que le salut est pour les humbles, les pauvres qui placent leur confiance en l'Éternel, et non dans les armes et les coalitions humaines. Il annonce aussi la prochaine ruine des Philistins, démontrant la futilité d'une alliance avec eux. En effet, 4 ans après cette prophétie, 711 avant Jésus-Christ, le roi assyrien Sargon II s'empare d'Asdod, l'une des principales villes de la Philistie, et fait de ce pays une province assyrienne. Semblable à un incendie qui détruit tout sur son passage, cette invasion s'annonçait de loin par des tourbillons de fumée. Par contre, Sion, qui est le nom de la colline sur laquelle est bâtie Jérusalem, échappe à ses griffes. Juda ne sera conquise que bien plus tard, 586 avant Jésus-Christ, et par l'Empire babylonien. Nous arrivons maintenant au chapitre 15, où il est question du jugement de Moab. Ce peuple a une origine sordide. Suite à la prière d'Abraham, son neveu Lot et ses deux filles échappent à la destruction de Sodome et Gomorre. Ne voulant pas rester sans postérité, les deux sœurs enivrent leur père et couchent avec lui. C'est ainsi que, de cette relation incestueuse, l'aîné donne naissance à Moab et sa sœur à Ammon. Le territoire de Moab est d'environ 75 km². Il est situé à l'est de la mer Morte et s'étend au nord jusqu'à la rivière Arnon. Mais à cette époque, les Moabites possèdent le plateau au nord de l'Arnon qu'ils ont pris à Israël, dont ils sont de farouches ennemis. Cependant, dans l'Ancien Testament, le livre de Ruth raconte l'histoire d'une Moabite dont l'arrière-petit-fils n'est autre que le grand roi David. Je commence à lire le chapitre 15. Menace sur Moab. En une nuit, elle a été détruite. Oui, c'est en fait Dar en Moab. En une nuit, elle a été détruite. C'est en fait de Kir à Moab. Le peuple de Didon monte à ses sanctuaires et ses hauts lieux afin d'y meuder deuil. Tout Moab se lamente sur Nebo et sur Médéda. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, on revêt les habits de toile de sac. Sur les toits, en terrasse et sur les places de la ville, tout le monde soupire et se répand en larmes. Ésaïe 15, versets 1 à 3. Cette prophétie sur Moab précède celle contre les Philistins. Il apparaît que les Moabites ont déjà subi une première invasion des Assyriens qui fut une guerre éclair, car en une seule nuit, ils ont pris leur capitale fortifiée Ar. Un autre nom pour Kir ou Kir-er qui est tombé, comme un fruit mûr. Cependant, Ésaïe annonce un malheur encore plus terrible qui décrira plus loin. Dibon était une localité importante qui se trouve à 5 km au nord de la rivière Arnon. C'est là qu'en 1868, on a découvert la stèle du roi moabite Mécha. Et c'est là qu'était le temple du dieu moabite Kemosh. Cet endroit est approprié pour les lamentations puisque cette divinité est incapable de venir en aide à son peuple. Nébo est une montagne située à l'extrême nord de la mer Morte. C'est de cette hauteur que Moïse a pu voir le pays promis dans lequel il n'a pas eu le droit de pénétrer. Médéda est une ville située sur un plateau de 8 km au nord de la rivière Arnon et au sud-est du mont Nébo. Au fil des siècles, ce territoire est très disputé, un peu comme certaines collines pendant la guerre des tranchées en 14-18. À l'arrivée des Hébreux en Palestine, Médéda est occupée par les Amoréens, qui l'ont prise aux Moabites. Moïse la donne alors à la tribu de Ruben qui l'a conquis. Quand Ésaïe écrit cette prophétie, Médéda et tout le plateau sont à nouveau occupés par les Moabites et c'est le roi Mécha, celui dont on a retrouvé la stèle, qui les a pris aux Israélites après la mort de leur roi Achab. Mais environ un siècle plus tard, ce territoire repasse sous contrôle israélite. C'est compliqué, comme je le dis de temps en temps. Je continue. À Heshbon, à Eleale, les gens poussent les cris. On les entend jusqu'à Yahat. Aussi, les soldats de Moab se mettent à crier. Et ils sont tout tremblants. Mon cœur gémit sur Moab. Ces fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat, chez Lishia. Et ils gravissent en pleurant la montée de Louit. Sur le chemin d'Oronaïm, ils poussent des cris déchirants. Les eaux de Nimrim ont tari, et l'herbe est desséchée. La végétation dépérit, toute verdure a disparu. Aussi, emportent-ils ce qu'ils ont pu sauver et leur objet précieux au-delà du torrent des saules. Ésaïe 15, les versets 4 à 7. La nouvelle de la prise de Kir, la capitale fortifiée, se répand comme une traînée de poudre jusqu'à Heshbon et à Eleale à la frontière nord du pays et à Jaha à l'est aux confins du désert. Nimrim est au sud de Moab, et Tsoar encore plus au sud dans le pays d'Édom. Toutes ces villes citées n'ont pas été identifiées, mais ce qui est certain est que les Moabites se sont enfuis à toutes jambes devant l'avancée des Assyriens. En plein milieu de cette prophétie, Ésaïe craque, car il dit « Mon cœur gémit sur Moab. Il est sensible aux misères de la guerre et ému de pitié pour ce peuple, bien qu'il soit un ennemi invétéré de Juda. » Ce trait de charité humaine est remarquable chez le prophète. Il sait se mettre au-dessus des haines nationales, pourtant si virulentes. Une telle compassion ne se rencontre que chez les poètes des autres peuples de l'époque. Ésaïe exprime le cœur de Dieu qui aime les hommes, aussi méchants soient-ils. Je finis de lire le chapitre 15. Car la clameur a fait le tour du territoire de Moab, et les lamentations sont entendues à Eglaïm, et elles retentissent jusqu'à Ber Elim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang. Oui, j'infligerai à Dimon un surcroît de malheur, et un lion fondra sur les survivants de Moab, sur ceux qui resteront dans le pays. Ésaïe 15, les versets 8 et 9. Les lamentations vont du nord au sud du pays. En dépit de la compassion de Dieu, le jugement doit tomber. Nous arrivons au chapitre 16, où nous lisons que la mesure du châtiment de Moab n'a pas encore atteint son comble, car son malheur sera suivi d'un désastre encore plus grand. Ce que la première attaque a épargné sera la proie d'une nouvelle invasion plus cruelle que la précédente. Je commence de lire le chapitre 16. « Envoyez des agneaux comme tribu au maître du pays, depuis Sela, par le désert, jusqu'au mont de Sion. Comme des oiseaux fugitifs chassés hors de leur nid, seront les filles de Moab près des guets de l'Arnon. » Ésaïe 16, les versets 1 et 2. L'envoi de ces agneaux est un acte de soumission de Moab au roi de Juda à Jérusalem. C'est déjà ce qu'a fait auparavant Mécha, roi de Moab envers Omri, roi d'Israël Nord. Il s'agit d'un tribut en échange de la protection des Moabites qui, devant l'avance assyrienne, ont traversé l'Arnon et se sont réfugiés en Juda. Séla, qui veut dire « rocher », est en grec « Petra », qui est le nom de l'antique capitale des Édomites. Cette ville entièrement taillée dans le roc est située à l'est de la mer Morte et à 80 km de la frontière sud de Moab. Aujourd'hui en ruine, les Arabes donnent à Petra le nom de Wadi Moussa. Je continue. Donne-nous un conseil, supplieront-elles. Prends une décision. En plein midi, étends sur nous ton ombre comme la nuit. Cache les expulsés, ne trahis pas les fugitifs. Ésaïe 16, verset 3. Ce langage signifie que les Moabites demandent au roi de Juda d'accepter les réfugiés et aussi d'intervenir en leur faveur par voie diplomatique afin que cesse cette attaque assyrienne. Au moment de cette prophétie, le royaume de Juda est en paix avec la Syrie et jouit d'un grand prestige aux yeux des peuples voisins. Je continue. Que les réfugiés de Moab soient accueillis chez toi, soit pour eux un refuge contre le destructeur. Car un jour, l'oppression va prendre fin, la dévastation cessera et l'oppresseur aura disparu du pays. Il régnera un roi sur le royaume de David. Son trône sera stable, car il gouvernera le peuple avec bonté et avec loyauté. Il poursuivra le droit et sera prompt à exécuter la justice. Ésaïe 16, les versets 4 et 5. Ces paroles ont à la fois une application immédiate et une autre qui est pour l'avenir. Comme je l'ai dit, le livre d'Ésaïe n'est pas écrit de manière chronologique. Quand cette prophétie a été faite, il semble que Ozias, roi de Juda, est le premier sous lequel Ésaïe a commencé son ministère prophétique. Or, sous son règne a eu lieu l'invasion d'une partie de la Palestine par le monarque assyrien Tiglath-Pileser. Selon les inscriptions assyriennes, il a attaqué Azraéo et Yodi, c'est-à-dire Azaria de Juda. Un autre nom pour Ozias. Mais apparemment, il a renoncé, car à cette époque, Ozias est puissant et son renom est considérable, jusqu'à ce que son petit-fils, Ahaz, devienne roi. Juda ne paie pas de tribut à la Syrie, tandis que depuis un siècle, tous les autres États de l'Asie occidentale sont sous sa botte. Concernant l'application future de la prophétie, Ésaïe entrevoit le règne du Christ, descendant de David, qui établira la justice et gouvernera le monde avec bonté et fidélité. Or, lors du concile de Jérusalem, l'apôtre Jacques a rappelé des prophéties messianiques. Je lis le passage. Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Après cela, dit le Seigneur, « Je reviendrai et je rebâtirai la maison de David qui s'était effondrée, et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. » Acte 15, des versets 14 à 16. Ce que dit Jacques correspond bien à la prophétie d'Ésaïe qui annonce que le Messie viendra pour régner sur le royaume de David. Ici, c'est Jacques qui reprend une prophétie, mais dans le Nouveau Testament. D'autres sont confirmées par Paul, ou un autre apôtre, ou par Jésus lui-même. Je suis bien placé pour savoir que c'est compliqué. Ça me rappelle quand j'étais enfant et que j'allais à la pêche. Un prêtre, ami de la famille, venait souvent avec nous et je l'aimais beaucoup parce qu'il démêlait ma ligne ou me la décrochait d'un arbre. C'est ce que j'essaye de faire avec les prophéties et croyez-moi, il faut beaucoup de patience et de longueur de temps, comme pour démêler une ligne de pêche.